Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
IAFA, je vous l'appelle, nous sommes samedi et vous écoutez Faso IAFA sur les antennes des radios partenaires du Studio IAFA. Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire, au nombre des sites d'accueil où l'on trouve plus de personnes vivant avec un handicap, Yuba 2, un quartier périphérique de la ville de Wayugia. Qu'est-ce qui est fait pour eux et comment vivent-ils? Le constat dans quelques minutes. Le viol empoisonne aujourd'hui la vie de beaucoup de femmes et pourtant on en parle peu. Que faut-il faire face à ce fléau? Nous retrouverons Momo Inafou pour des éléments de réponse. Comment surmonter un viol? Le docteur Moumini Niaone nous prodiguera des conseils. La juriste Sylvie Tarnagda, elle, nous dira quelles sont les dispositions prévues par la loi et quelles sont les voies légales de dénonciation en cas de viol. Je suis Aimé Roulan Ouidraogo. Merci de rester connecté. Partir de chez soi et s'installer dans une nouvelle localité pour fuir l'insécurité n'est pas toujours facile et cela l'est encore moins quand on est une personne vivant avec un handicap. Le site de déplacés de Yuba 2 en périphérie de la ville de Wayugia compte presque une centaine de personnes vivant avec un handicap. Comment vivent-ils leur situation? Des mesures sont-elles prises pour leur faciliter la vie? On en sait plus avec Nelly Tapsoba.
Nous sommes sur le site de déplacés internes de Yuba 2. Sur le petit marché du site, à côté des vendeuses de légumes, Issouf Tao expose sa marchandise, des lipicots qu'il confectionne et commercialise lui-même. Handicapé moteur, Issouf est aussi le représentant des personnes vivant avec un handicap sur le site.
Il manque une personne pour faire 100. Nous sommes 99 personnes vivant avec un handicap sur ce site. Parmi nous, la plupart sont démunis. Quand tu veux te plaindre, tu regardes ton voisin et tu te dis que ton handicap est plus supportable que le sien. Nous souffrons, nous ne sommes pas sous nous et nous n'avons pas d'aide.
Fatih Werema est également installée sur le site de déplacés de Yuba 2 depuis plus d'une année. Elle aussi vit avec un handicap moteur et se déplace difficilement à l'aide d'une canne. Une faible mobilité qui rend difficile leur accès aux dons de vivre selon elle.
Nous sommes handicapés et nous vivons sur le site. En raison de ce handicap, même quand nous entendons parler de partage de vivres, il est difficile pour nous de nous y rendre. Nous sommes obligés de rester ici.
Des difficultés dont Adama Sawadogo, directeur provincial de l'action humanitaire du Yatenga, dit être conscient. Ce dernier affirme que des mesures sont prises afin de faciliter l'accès aux dons aux personnes vivant avec un handicap.
Quand on fait l'enregistrement, là où il y a des personnes handicapées, on coche pour savoir qu'une telle est personne handicapée selon vraiment le profil. Et c'est des personnes qui souvent, au regard vraiment de leur handicap, ne sont pas vraiment en tout cas mobiles pour pouvoir aller les sites où nous enregistrons vraiment les personnes handicapées. Et souvent, c'est difficile de savoir où ils se trouvent. Mais quand cela ne tienne, la réponse, c'est multisectorielle. Et nous comprenons que s'il y a des personnes handicapées dans nos interventions, il faut les prioriser. C'est les directives que nous avons reçues et que nous donnons aussi à nos partenaires.
Au-delà de l'accès aux vivres, Issouf et ses camarades aimeraient également que l'accès aux activités génératrices de revenus soit facilité pour les personnes vivant avec un handicap, et ce, afin de leur permettre de vivre dignement.
Notre souhait est qu'on nous aide avec des activités afin que nous puissions nous battre pour s'en sortir par nous-mêmes.
Momo et Nafou.
Aujourd'hui, notre ami comique Nafou est en pleurs et en veut à tous les hommes. Pourquoi? Que fera Momo? Écoutons.
Et Nafou, pourquoi tu pleures?
Et la vie. Et
Nafou, tu vas me faire pleurer aussi? Dis-moi, comment je peux t'aider? Pardon,
hey,
calme-toi.
Momo, si tu veux m'aider, il faut castrer tous les hommes.
Aïe! Nafou, castrer les hommes? Non, on ne sera plus des hommes. C'est quelle histoire ça encore?
Momo.
Calme-toi.
Momo. Est-ce que violer une femme ou une fille, c'est ça être un homme?
Atsafoulaye. Abomination. Sacrilège. Quel homme a osé faire ça? Momo. Qui est ce maudit là?
Momo, figure-toi que des femmes, vos femmes, hein, vos filles, vos sœurs sont violées ici.
Par qui? Par quel maudit?
Momo, tes frères, tes amis, tes pères et même tes fils.
Nafou, tu veux me dire qu'entre nous ici, on commet cette abomination, cette honte, cette malédiction? C'est pas vrai. Calme-toi. Mais pourquoi les femmes n'en parlent pas?
Momo, elles ont peur d'être montrées du doigt.
Dieu.
Elles ont peur que leur mari les répudie. Elles ont peur que ceux qui les ont violées leur fassent du mal. Momo, elles sont traumatisées. Elles ne dorment plus la nuit.
Non, Nafou. Ce sont les hommes qui devraient avoir honte de faire ça. Ils agissent comme des animaux.
Momo, crois-moi. Il est temps que tout cela s'arrête. Les femmes et moi, nous sommes en train de mettre en place une stratégie pour dénoncer les auteurs des viols. Je rappelle que selon la loi, Momo, quand on viole une personne, on peut faire 10 à 20 ans de prison ferme.
Même mourir en prison. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'une femme violée peut faire immédiatement?
Momo, aller dans un centre de santé pour commencer. Et appeler le 80 00 12 87.
Nafou, je m'en occupe à partir de maintenant. Je vais montrer le 80 00 12 87 à toutes les femmes.
La fille qui bat.
Qui dit viol, dit traumatisme et autres séquelles. Comment y faire face et comment les surmonter? Nelly Tapso va poser la question à Dr. Moumini Niaouné. Je vous propose d'écouter ses conseils.
Docteur, Momo est dépité par les confidences de Nafou sur les cas de viol de femmes et de filles dans leur entourage. Une abomination selon Momo. Quelles peuvent être les conséquences d'un viol sur la santé tant physique que mentale?
Déjà, il faut dire que violer, c'est lorsque on fait des pénétrations à caractère sexuel sous contrainte ou par surprise, sans le consentement de la personne. Alors, à partir du moment où la personne n'est pas d'accord, ça peut être très humiliant, ça peut créer beaucoup de problèmes sur la santé mentale et même peut conduire à des grossesses non désirées ou à des infections sexuellement transmissibles comme le VIH, SIDA, les hépatites et autres. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave à ne pas prendre à la légère sous aucun prétexte. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en général, c'est des gens qui connaissent la victime. Ce qui est aussi important de dire, c'est que non, c'est non. Même si la personne dit oui, après elle dit non, c'est non. Et si la personne ne dit rien, ça ne veut pas dire oui. Donc, souvent, tu entends dire non, j'ai essayé, elle n'a pas dit non, elle n'a pas, c'est pas au point. Non. Tant que la personne n'a pas dit oui, elle n'a pas dit oui. Ça a des conséquences sur la santé physique, sur la santé mentale de la personne, sur sa confiance en elle-même. Et ça peut amener certaines personnes même à se suicider. Même quand on est marié, la femme a le droit, à des moments donnés, de ne pas vouloir parce qu'elle ne se sent pas bien, parce qu'elle n'est pas dans l'état. Et nous, les hommes, quand tu le dis comme ça, les gens se braque, ils disent que c'est une parole de blanc, qu'on ne devrait même pas mentionner ça. Alors que non, les femmes, ce n'est pas des animaux, c'est des êtres comme nous qui ressentent la douleur, qui ressentent la fatigue, particulièrement dans les situations de déplacés. C'est des cas très fréquents. Et les femmes, justement, doivent éviter au maximum, lorsqu'elles partent éloignées du site ou d'endroits où il y a beaucoup de monde, d'aller seules pour n'est pas tombé sur des prédateurs, on ne sait jamais.
Plus souvent, le viol n'est pas dénoncé. Nafou l'a dit, les femmes ont peur d'être rejetées. N'est-il pas temps de lever le tabou et de dénoncer franchement ces cas-là?
Absolument. Et malheureusement, en fait, la personne se sent tellement humiliée qu'elle préfère ne pas en parler. Parce qu'on va te dire, qui veut marier une femme qui a été violée? Et donc, elle vit avec cette douleur-là, seule, dans le silence. Et parfois, même avec un regard accusateur des autres pour dire que c'est elle qui l'a cherché, c'est lié à son habillement, c'est elle l'a provoqué. Et du coup, la victime devient le bourreau. C'est elle qui devient celle qui a provoqué. Donc, oui, il faut lever le voile, il faut commencer à en parler de façon sérieuse. Il faut encourager les victimes à dénoncer les violeurs, parce qu'en général, ils ne seront pas leur première fois et ils ne seront pas leur dernière fois. Donc si vous vous taisez, si vous ne dites rien, la personne va continuer à faire cet acte ignoble. Et comme on l'a dit, il y a un numéro qu'il faut appeler. Au Burkina, il y a des centres de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Il faut dénoncer. Et lorsque on a été victime de viol, il faut non seulement aller dans un centre de santé, parce qu'ils ont des examens à faire pour confirmer, rechercher des traces de spermatozoïdes, rechercher les violences et tout. Il faut même faire les dépistages, parce qu'on ne sait pas si la personne qui a commis le viol s'est protégée ou pas déjà, et sinon, est-ce que la personne a une infection particulière, hépatite ou VIH, sida et autres. Ensuite, il faut aller vers les forces de défense pour signaler et en parler à un spécialiste, un psychologue ou à quelqu'un en tout cas qui ne va pas vous juger, mais plutôt qui va être disposé à vous écouter, à vous comprendre, à vous rassurer et à vous amener à adopter le meilleur comportement possible.
Merci docteur.
Merci.
Kibar utile.
Apprenons davantage sur ce que c'est le viol et ce qui est prévu par la loi burkinabé. Et c'est avec Sylvie Tarnagda, elle est juriste de formation au micro de Salamatou Diko.
Bonsoir madame.
Bonsoir.
Qu'est-ce que le viol? On peut définir le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, quel que soit le moyen utilisé, que ce soit la pénétration vaginale, anale ou voilà, par la bouche. Le viol, c'est cette pénétration-là à l'égard de cette personne qui n'est pas consentante. Le viol est un crime.
Si le viol est un crime, quelles sont les dispositions prévues par la loi?
Alors, au Burkina Faso, c'est le code pénal qui est applicable à ce crime et c'est l'article 533 qui parle précisément de ce crime. La loi dispose que, en cas de viol, la personne qui a commis l'acte peut être punie d'une amende de 600 000 à 2 millions ou bien peut avoir une peine d'emprisonnement de 7 ans à 10 ans.
Mais est-ce que la peine varie selon la gravité de la situation?
Il y a des peines qui sont plus élevées. On peut prendre en compte la qualité de l'auteur du viol, la qualité de la victime, si c'est par exemple une mineure. On peut prendre aussi le nombre de personnes qui ont eu à commettre l'acte. Quand je dis que le nombre de personnes à avoir commis l'acte, c'est plusieurs personnes qui ont été auteurs du viol à l'égard d'une seule personne. À ce genre de circonstances, la peine peut s'élever allant de 11 ans à 21 ans de prison et d'une amende allant de 1 million à 3 millions.
Et quelles sont les voies de dénonciation disponibles en cas de viol?
Ce qui est conseillé, c'est de partir à la police ou à la gendarmerie pour dénoncer. Mais il y a aussi le centre d'écoute de l'ABBF qui est situé au 1200, qui est là pour ce genre de problème. Il y a aussi l'association des femmes juristes qui a une structure à leur sein qui permet à ces personnes victimes de viol de venir dénoncer et avoir même un soutien psychologique. Il y a aussi TEMIS, notre structure, qui a un centre d'appel avec le numéro 3473, vous pouvez appeler, pouvoir dénoncer et au-delà, vous pouvez avoir un appui psychologique et même vous aider à pouvoir dénoncer ce crime devant les autorités compétentes.
En plus du numéro de TEMIS, est-ce qu'il y a d'autres numéros verts auxquels on peut avoir un soutien?
Oui, il y a le 80-00-12-87 qui est mis à la disposition des justiciables aussi pour pouvoir appeler et dénoncer ce genre de crime.
Mais pour dénoncer, quelle est la procédure?
Le premier élément dont on tient compte, c'est le consentement. La victime viendra expliquer. On verra s'il y a des séquelles physiques. Là, c'est plus visible. L'on verra en fait, c'est par quel moyen la personne qui a intenté l'acte de violence est passée. Ça peut être par le chantage, ça peut être par des menaces, ça, tout ce qui va avec pour pouvoir contraindre ces dernières. Là, il en va de soi aussi que la personne accusée puisse voir l'avenir expliquer. Donc, c'est au juge de voir en fait quelle est la part de vérité pour pouvoir voir s'il y a vraiment eu viol ou pas. Je voulais aussi ajouter que à l'issue du viol, si la femme tombe enceinte, puisque c'est quelque chose qui a été fait sans son consentement, elle peut, dans la limite de 14 semaines,
demander l'interruption de cette grossesse, puisque c'est pas une grossesse qui a été voulue. Mais elle doit justifier en fait que cet enfant la résulte d'un acte de viol.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Wayuguya, chef-lieu de la région du Nord, abrite de nombreuses écoles délocalisées pour permettre à des élèves issus de villages où l'insécurité règne de poursuivre leurs études. Délocaliser les écoles fermées par les radicaux est une forme de résilience face à la crise sécuritaire. Nous avons rencontré des élèves et des enseignants qui sont déterminés à aller à l'école malgré les difficultés dont le manque de matériel et de place. L'école à tout prix, c'est un reportage de Awamondriatu Tankwano.
Des enfants qui jouent dans la cour, des cris, de la bousculade. Nous sommes dans la cour de récréation du lycée municipal de Waïguia. Des bicyclettes, moyen de locomotion des élèves, débordent du parking. Preuve que l'établissement accueille une foule plus nombreuse que d'habitude. En effet, le lycée municipal de Waïguia partage ses locaux depuis la rentrée scolaire 2022-2023 avec 9 autres établissements originaires des communes rurales de la province du Yatenga, soit plus de 900 élèves qui ont vu leur école fermée du fait de l'insécurité. Edmond Rabikinda est le proviseur du lycée départemental de Zogori, l'un des 9 lycées délocalisés sur le site du lycée municipal de Waïguia.
On a 9 classes fonctionnelles avec 7 classes. Donc, il y a des niveaux qui font du double flux. Par exemple, si on prend les 5e, il y a 5e A et 5e B. Il y a une 5e qui vient à partir de 7h et qui finit à 12h. L'autre 5e débute à 13h pour finir à 18h.
Si pour élèves et enseignants, c'est une victoire contre le radicalisme de pouvoir retrouver le chemin de l'école, ils doivent relever des défis au quotidien. De nombreux élèves n'ont pas trouvé de tuteur ou des logements proches de leur établissement. C'est le cas d'Aruna Belem, élève en classe de première D qui loge à 14 km de son école. Auparavant, il parcourait seulement 1 km pour prendre ses cours.
Moi, je loge dans mon village, plus de 14 km d'ici. Donc, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix parce que je veux étudier, continuer d'étudier. Donc, je dois lever très tôt le matin, vers les 4h, pour faire les préparatifs avant d'aller à l'école.
Et est-ce que ça te fatigue? Est-ce que ça joue sur la qualité de tes études?
Bon, ça joue parce que le soir, si tu arrives, tu es un peu fatigant. Donc, ça ne permet pas de bosser jusqu'à certains niveaux.
Tout comme Aruna, Minata Drabo, la vingtaine, le regard distant, est aussi élève déplacée. Elle dit rencontrer les mêmes difficultés que son camarade. Loin de ses parents, elle doit apprendre surtout à se débrouiller toute seule.
L'école est un peu loin de chez moi. Pour venir à l'école le matin, c'est déjà un problème. Si je ne me lève pas tôt, je ne peux pas venir à l'école à l'air. Donc, concernant et la nourriture aussi, et c'est obligé pour nous de préparer dans les soirées. Donc, dans la journée maintenant, on mange ça. Et puis, dans la soirée encore, on prépare.
Autre difficulté auxquelles font face les lycées délocalisés, ce sont des effectifs pléthoriques dans les classes et le manque de manuels scolaires. Prosper Tiemtouré est professeur en histoire et géographie.
Dans sa classe, il y a plus de 100 élèves. Hein. Bon, ce qui fait qu'on n'arrive même pas à circuler entre les rangées. Tu ne peux même pas savoir c'est quel élève qui suit. C'est quel élève qui ne suit pas. Vous pouvez jeter un coup d'œil, voir comment les tablettes sont voilà, déposées. Bon, c'est très coincé. Puis il y a d'autres qui sont aussi 7-7.
Plus loin, au lycée de Gourga, à 8 km de Waïguia, le site abrite 3 lycées et 2 collèges d'enseignement général. Face à l'insuffisance des classes, des hangars sont transformés en classes pour la circonstance. Ils travaillent dans la précarité, comme nous l'explique Bukari Ouedraogo, le premier responsable.
Nous partons pratiquement du point zéro. C'est-à-dire que sur les 6 salles, on n'avait même pas un seul tablement et on avait encore moins de bureaux. On n'avait même pas de craie. Donc on a démarré avec quelques bâtons. Et les autorités, en tout cas, ont promis se battre pour nous aider. Et nous aussi, de notre propre initiative, nous cherchons des partenaires.
Pour l'heure, le plus important pour ces élèves, c'est de pouvoir continuer à aller à l'école et d'échapper ainsi à la déscolarisation.
L'agence d'information du Burkina AIB indique qu'en octobre 2022, plus de 11% des établissements scolaires étaient fermés, soit plus de 2450 écoles. Selon le directeur provincial de l'action humanitaire de la province du Yatenga, Drissa Belem, l'initiative de délocaliser certaines écoles fermées vient du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Une mesure qui vise à réduire au maximum le nombre d'enfants déscolarisés au Burkina.
Nous sommes les élèves des municipales, nous voulons étudier.
Je passe en classe supérieure.
Studio Yafa. La musique est source de plaisir, la musique elle adoucit les cœurs. Ce soir, notre artiste invité n'est plus à présenter, c'est une cantatrice qui nous vient de la province de la Nyanya, commune de Piala. Elle s'appelle Marie Gayeri. Son nom est connu à travers tout le Burkina Faso et ailleurs. Marie Gayeri, bonsoir et bienvenue.
C'est très bien, je vous salue et je remercie aussi.
Marie Gayeri est présente dans notre studio avec son équipe. Bonsoir à toute l'équipe. Marie Gayeri, dites-nous comment vous avez débuté votre carrière de cantatrice.
Alors, j'ai commencé à chanter en étant petite, en tapant simplement les mains avec mes amis pour accompagner les chanteurs. C'est ainsi que les adultes m'ont observé et ils ont fait venir un jour un joueur de violon dans la famille et on a essayé la combinaison.
Donc, vous avez commencé la chanson depuis l'enfance?
Oui, étant enfant.
Parmi vos parents, y avait-il un chanteur?
Nali. Oui, ma mère était chanteuse.
Combien d'albums à votre actif?
J'ai produit beaucoup d'albums toute seule et j'en ai produit d'autres en collaboration avec d'autres chanteurs et artistes musiciens.
Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons?
Les thèmes que je développe dans mes chansons sont entre autres la culture, les différentes fêtes et en cas de besoin, les louanges des personnes, les familles et les liens pour des cérémonies particulières.
Ok, merci pour toutes ces informations. À présent, Marie Gayeri, nous allons vous solliciter une chanson pour nos auditeurs. Et oui, ainsi la paix va régner dans notre cher pays, le Burkina Faso. Bravo Marie Gayeri, votre chanson est très intéressante et elle touche les cœurs. Dans votre chanson, vous nous invitez à nous accepter les uns les autres avec nos différences ethniques, religieuses. Vous nous rappelez aussi la situation sécuritaire au Burkina et qu'il faut demander au bon Dieu la paix. Nous allons profiter et vous demander de formuler un message de sensibilisation et de conseil à l'endroit de nos auditeurs et en particulier les personnes déplacées internes.
Alors, ce que nous demandons de plus cher, c'est la paix. Donc, je demande la paix pour tous. Quand tu quittes chez toi par manque de paix, tout ce que tu veux, c'est la paix. Les Gulmarchés ont un adage qui dit que celui qui s'installe chez autrui constitue une charge. Personne n'a souhaité cela. Nous formulons le vœu que chacun puisse retourner chez lui pour vivre en paix comme avant. Ce sont les hommes qui ont contribué à l'installation de l'insécurité. Ce n'est pas Dieu. Donc ça va passer par la grâce de Dieu. La vie que nous vivons actuellement n'est pas souhaitée.
Marie Gaïri, que Dieu exauce votre demande pour notre pays. Nous vous remercions d'être passé chanter pour nos auditeurs. Que Dieu vous aide encore dans votre carrière musicale.
Amen, amen.
C'est la fin de cette émission. Rendez-vous samedi prochain à la même heure et sur la même fréquence pour suivre votre émission Faso IAFA. Vous pouvez réécouter des extraits de Momo et Nafou, La Fille Kibar, Kibar Utile, à tout moment sur Viamon en appelant Orange au 3 2 1. Merci pour la fidélité constante. Le studio IAFA, c'est s'informer pour comprendre, mais aussi dialoguer pour s'entendre. IAFA, chez vous, la paix chez vous. Je vous souhaite de passer un joli week-end. Bye bye.